Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Il y a à Québec un projet de loi qui est à l'étude pour créer un poste de commissaire au bien-être et aux droits des enfants pour protéger les enfants vulnérables, notamment ceux de la DPJ. C'était une recommandation de la commission qui a été présidée par Régine Laurent, justement sur les dysfonctions à la DPJ. Nancy Audet, que vous connaissez bien, journaliste marraine de la Fondation des jeunes de la DPJ, autrice de Plus jamais la honte, où elle a raconté son passé d'enfant de la DPJ, a témoigné en commission parlementaire à Québec à ce sujet il y a deux semaines. Elle a des inquiétudes sur, disons, les futures responsabilités de ce poste de commissaire au bien-être et aux droits des enfants. Elle est au bout du fil. Nancy, bonjour.
Bonjour, Patrick.
D'abord, peut-être nous expliquer c'est quoi le poste de commissaire au bien-être et aux droits des enfants, là, tel que Québec est en train de le développer.
Mon Dieu, ça me prendrait beaucoup de temps à dire ça, mais essentiellement, quand on regarde le projet de loi, d'un, on se rend compte que c'est pas du tout conforme à ce que les commissaires avaient demandé, hein, à la première recommandation, qui était la recommandation phare de la commission Laurent. On lui donne un rôle de prévention, ce qui est essentiel dans la situation actuelle, hein. On le dit, là, ça fait longtemps qu'il faut aller agir en amont. Quelqu'un qui va rendre des rapports, qui va pouvoir enquêter, qui va collaborer avec le protecteur du citoyen, par exemple, qui va aussi travailler avec le coroner lorsqu'il y a des morts d'enfants. Tout ça, c'est très bien, Patrick. Mais ce qui était vraiment primordial pour les commissaires, c'était quoi? C'était de transférer aux commissaires les pouvoirs et les responsabilités assumées par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse prévues à la loi de la protection de la jeunesse avec toutes les ressources afférentes. Ça, c'était le numéro un. Et les commissaires voulaient ça, ce transfert des pouvoirs-là, parce qu'on voulait un commissaire qui allait avoir des dents, qui allait avoir un certain pouvoir, parce que je vous apprends rien en vous disant que la situation est très critique au Québec du côté de la direction de la protection de la jeunesse. Il y a beaucoup, beaucoup de lésions de droits, les délais judiciaires, les conditions de vie des enfants. Vous savez, on en parle à chaque semaine, hein, ou presque dans les médias. Donc, on voulait un commissaire qui avait du mordant, qui allait avoir un certain pouvoir, et il n'y en a pas dans le projet de loi.
Okay.
Et à mes yeux, c'est très décevant.
J'ai regardé, Nancy, ton témoignage là à la commission parlementaire il y a deux semaines. Tu as eu des échanges avec le ministre délégué aux services sociaux, M. Carman. Tes craintes sur l'étendue des pouvoirs, sur l'indépendance, sur ce que tu appelles les dents de ce chien de garde, là, le commissaire au bien-être des enfants, quand tu regardes la mouture du projet de loi, c'est quoi tes craintes sur son manque de pouvoir?
Ben là, on lui en donne pas de pouvoir. Parce que au Québec, l'institution qui a le plus de pouvoir actuellement pour aller aider les enfants vulnérables, Patrick, c'est la CDPDJ, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Ses pouvoirs sont exceptionnels, je vous le dis. La commission, elle peut prendre les moyens légaux qu'elle juge nécessaires pour que soit corrigée la situation où les droits d'un enfant sont lésés, là. Elle peut intervenir vraiment dans les cas d'enfants qui sont victimes de lésions de droits. Et il y en a beaucoup, il y en a tellement, je veux dire, ça s'empile. Et la commission ne joue pas son rôle. C'est pas moi qui le dis, c'est les commissaires, c'est Régine Laurent, il y a plusieurs personnes, des avocats, des juges, Patrick, des gens qui travaillent avec les enfants vulnérables depuis de nombreuses années, qui réclament la présence de la CDPDJ, qui est absente pratiquement des tribunaux et qui ne joue pas son rôle alors qu'on finance cette institution-là à coups de millions de dollars. Et donc, c'est pas pour rien que les commissaires demandaient le transfert des pouvoirs. On le trouve pas dans le projet de loi. Et à mon sens, je ne comprends pas l'entêtement du gouvernement de ne pas écouter cette recommandation-là, qui était la numéro un et qui assurait que le commissaire puisse agir concrètement, Patrick. Parce qu'il faut aller agir. On peut plus continuer comme ça. On parle de nos enfants, puis on parle de nos enfants vulnérables.
Quand tu as témoigné, Nancy Audet, à propos là, justement du rôle futur de ce commissaire au bien-être et aux droits des enfants, tu as espéré qu'il ait de super pouvoirs. Qu'est-ce que tu voudrais qu'un commissaire au bien-être et aux droits des enfants puisse faire en toute liberté, en toute indépendance, quand on va le créer?
Ben, il faut que le commissaire puisse, Patrick, notamment se rendre devant les tribunaux quand un enfant est victime de lésions de droit. Quand un enfant est victime de lésions de droit, il y a de fortes chances qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'autres enfants au Québec qui vivent la même situation. Ça va amener des enquêtes systémiques. On va pouvoir faire des recommandations. Puis la commission, elle peut saisir le tribunal lorsque ces recommandations n'ont pas été suivies dans le délai imparti. Elle a vraiment des super pouvoirs. Il faut transférer ces super pouvoirs-là au commissaire. Je sais pas pourquoi, honnêtement. Puis je pense qu'il faut qu'on se pose de sérieuses questions. Pourquoi on s'entête du côté de Lionel Carman et du gouvernement à protéger la CDPDJ? Parce que c'est pas juste moi qui le dis. Il y a plusieurs personnes qui le disent. Cette institution-là, malgré un financement de plusieurs millions de dollars, 18 millions de dollars, ne joue pas son rôle de protecteur. On veut que ce rôle-là soit joué par le commissaire. Les commissaires à la Commission Laurent ont eu cette vision-là. Elle est claire, elle est compréhensible aussi. C'est comme ça qu'on va arriver, Patrick, à renverser la vapeur. Tu sais, quand on parle d'enfants dans les centres jeunesse en ce moment, par exemple au Mont-Saint-Antoine, qui depuis 2 ans vivent dans des conditions lamentables, il y a des bâches sur le toit, il y a des infiltrations d'eau partout, il y a de la moisissure, il y a des champignons dans l'amphithéâtre depuis 2 ans, les enfants ne peuvent plus y aller, c'est trop dangereux. Il y a les bains sont condamnés, ça fait 2 ans. On a besoin d'un commissaire qui va aller sur place, Patrick, voir les enfants, rencontrer les enfants, voir les conditions de vie.
Question pour toi.
Qu'est-ce qui va pas?
Nancy, tu connais bien l'écosystème de la DPJ. Tu vas dans les centres jeunesse. Ce que tu me décris là comme rôle de chien de garde, je pensais que c'était le rôle, de ce nouveau poste qui a été créé, celui de la directrice nationale de la protection de la jeunesse.
Je m'excuse. Moi aussi, j'ai pensé ça au départ, puis j'ai eu espoir. Mais elle est complètement absente du terrain. Il n'y a personne qui la voit. Il n'y a personne qui sait ce qu'elle fait, cette personne-là, malheureusement. Qui est payée un salaire assez exorbitant, je vous dis ça comme ça. Donc, je ne sais pas pourquoi on a créé ce poste-là qui est complètement étatique, ceci étant dit.
Le c'est une sous-ministre, donc elle est dans l'organigramme du ministère.
Mais c'est ça. Donc, c'est une personne qui est dans la machine depuis plusieurs années, qui a beaucoup d'amis. On a envie, je pense que ce poste-là, puis la situation actuelle, demande de réfléchir aussi à qui va occuper ce poste-là. Il faut une personne totalement indépendante, qui n'a pas de lien politique, parce que la situation est hors de contrôle et on a besoin de quelqu'un qui va pas être là uniquement pour dire oui. On a besoin d'une personne qui n'aura pas peur d'imposer des décisions, qui n'aura pas peur de brasser la cage, parce que c'est pas ça qu'on voit en ce moment. Je sens pas l'urgence d'agir. Tu sais, quand je suis allée témoigner, tu sais, on a préparé ce mémoire-là avec beaucoup d'attention, Patrick, pendant des semaines. Puis c'est important, tu sais, tout le monde veut que les choses changent, mais quand on arrive devant les parlementaires, devant M. Carman, on sent pas l'urgence d'agir. Puis ça, je trouve ça triste pour les enfants, parce qu'il y en a une urgence d'agir au Québec. Je veux quand même souligner le travail incroyable de Brigitte Garceau, qui est députée libérale. Je l'ai vue durant les consultations, puis encore aujourd'hui, durant l'étude détaillée. Elle arrive avec des arguments et préparée, visiblement, elle a rencontré beaucoup de monde, et elle se frappe à un mur complet devant elle. Une rigidité, un manque d'écoute total. Ouais. On n'est pas du tout ouvert à apporter des amendements. Je ne sais pas ce qui se passe à Québec. Je ne sais pas pourquoi autant de rigidité quand on parle de protéger nos enfants vulnérables. Mais je pense qu'il va falloir qu'on se pose des questions, notamment pour la CDPDJ. Pourquoi on décide de les protéger autant? Est-ce qu'il y a des liens qu'on connaît pas? Je ne sais pas. Mais il y a vraiment quelque chose qui se passe de ce côté-là, puis c'est inquiétant. On veut un vrai commissaire, Patrick, pour les enfants vulnérables. C'est ça qu'on veut. Ils le méritent. Puis c'est urgent.
Merci d'avoir été avec nous, Nancy. Bonne journée.
Merci, bonne journée.
À la prochaine. C'était Nancy Audet, activiste pour les droits des enfants, particulièrement ceux de la DPJ. Ben, on a demandé une réaction au cabinet de Lionel Carman, puis l'explication pourquoi est-ce qu'on ne fond pas les pouvoirs de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse dans le nouveau bureau du commissaire au bien-être des droits des enfants. Bon, on estime que ça diluerait fort probablement le rôle de prévention du commissaire, et on craint aussi une perte d'expertise si on tasse carrément la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse de ses enjeux de DPJ.
Patrick Lagacé en accéléré.
Il y a un an, je vous ai parlé de soins à domicile palliatifs. Pourquoi c'est important d'en parler? Ben parce que plus les gens sont soignés souvent longtemps à la maison, que ce soit dans le palliatif ou pas, plus on évite des transports à l'hôpital, plus on évite que les salles d'urgence soient comme ça embourbées. Je dis pas que c'est une solution miracle, mais ça fait partie de la solution. Et on le voit à Québec, il y a une volonté de faire un virage vers les soins à domicile. Et l'année passée, on avait reçu en studio Anne-Sophie Schlader. Elle est la directrice générale de Nova Soins à domicile, qui donne des soins palliatifs aux gens qui veulent vivre leur dernier moment à la maison. Puis des fois, les derniers moments, ça peut durer longtemps. On avait reçu aussi la spécialiste en soins palliatifs à domicile, docteur Geneviève Dechaine. J'accueille en studio Anne-Sophie Schlader, qui est DG de Nova Soins à domicile. Bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Plaisir. Et aussi à Québec, on va rejoindre la ministre Sonia Bélanger, qui est responsable des aînés, ministre déléguée à la Santé, et qui est la grande responsable, justement, de l'établissement d'un nouveau plan québécois pour les soins à domicile. Madame la ministre, bonjour.
Oui, bonsoir, Monsieur Lagacé.
Donc, je commence avec vous, Sonia Bélanger. Vous annoncez là une aide financière pour Nova Soins à domicile, et on s'entend, 1,2 million, c'est pas grand-chose dans le grand budget de l'État, mais dites-moi pourquoi c'est important dans le virage que vous voulez faire en matière de soins à domicile.
Oui, bien, vous savez, Monsieur Lagacé, les soins palliatifs, c'est une priorité de notre gouvernement, que ce soit à l'hôpital, en maison de soins palliatifs, en CHSLD, mais bien sûr en soutien à domicile. Puis on le voit, il y a une demande constante depuis les dernières années. C'est près de 28% des décès au Québec dont les personnes demandent pour que ce soit fait à domicile. Alors, c'est très important. Puis aujourd'hui, on est très heureux d'annoncer là cette subvention. C'est un début avec Nova Soins, qui ont un rôle primordial en soins palliatifs à domicile. Ils ont développé une expertise depuis plusieurs années. Donc, c'est une belle subvention. C'est un début. Donc, pour donner un coup de pouce, on va vraiment les accompagner. Et puis, on verra pour la suite des choses. Mais disons que c'est une priorité du Québec d'aller de l'avant avec les soins palliatifs à domicile.
OK, je me tourne vers vous, Madame Schlader. L'année passée, quand on s'est parlé, ça faisait... Je suis allé sur le terrain, je t'avais suivi une équipe de Nova Soins à domicile. Puis j'avais compris comment concrètement d'avoir ces soins-là à domicile, ça évite des transports à l'hôpital, des visites chez le médecin, de surcharger comme ça le système de santé. Expliquez aux gens ce que vous faites.
Donc, on collabore avec les CLSC. On est un organisme communautaire. On a la même mission que les CLSC, qui est le maintien à domicile. Donc, essentiellement, un patient qui désire vivre ses derniers jours à la maison, recevoir des soins, a besoin de services. Le CLSC, parfois, arrive pas à offrir la totalité des soins. Donc, on est là pour ajouter des heures de service aussi avec notre expertise. Donc, on aide environ 550 patients par année, plus
à Montréal.
Oui. Plus leurs proches aidants. Donc, environ 1000 personnes qu'on soutient par année gratuitement.
OK, puis vous êtes financé par des fondations, vous êtes financé par des dons. Vous ne vivez pas richement, si je me trompe pas.
Exactement. Donc, ça fait 125 ans qu'on arrive à payer nos soins par la philanthropie avec des dons. Mais là, depuis la pandémie, on y arrivait plus. La demande pour les soins a augmenté. Puis, le coût relié aux services aussi.
Puis, vos patients, est-ce qu'ils doivent payer pour les services?
Nos services sont gratuits. Donc, au-delà d'un certain nombre d'heures, on peut ajouter des fois certains services qui vont être à très faible coût, mais essentiellement avec les services gratuits, souvent on arrive à garder les gens jusqu'à la fin à la maison.
OK, je me tourne encore vers vous, Madame la ministre Bélanger. L'organisme qui est Nova, ce sont pas des employés de l'État et c'est pas le seul organisme comme ça qui fait partie du filet de sécurité, du filet de santé, de services sociaux. Est-ce que vous estimez que de façon générale, ils sont assez bien financés pour remplir leur mission et aider l'État?
Mais en fait, je pense que ça demeure un défi. Premièrement, de bien reconnaître les partenaires. Et moi, je le dis depuis mon arrivée en fonction, là, au niveau du soutien à domicile, tout ne doit pas reposer sur nos équipes CLSC. Puis ça, je pense que c'est un bon exemple, là. Nova vient compléter une offre de soins. Puis, dans le fond, l'ensemble des intervenants sont très, très bien formés. D'ailleurs, ils sont pas juste formés. Je pense que vous avez aussi, Mme Schlader, un programme de formation qui est reconnu par l'Université de Montréal. Ils ont développé une expertise véritable. Ils forment même des intervenants du réseau public. Alors, voyez un petit peu, pour moi, c'est une collaboration. Ils ont développé avec les années une offre de services qui est vraiment extraordinaire. Je pense que maintenant, il faut reconnaître, il faut soutenir comme gouvernement cette offre de services qui est complémentaire, qui est très appréciée et qui répond parfaitement aux besoins des personnes.
Madame la ministre, quand on investit comme ça dans les services de soins à domicile, que ce soit palliatifs ou autres, dans l'absolu, là, comment ça devrait aider le système de santé et aussi à alléger les hôpitaux?
Ben, en fait, on le voit. D'abord, il faut entendre la volonté des personnes. Puis moi, quand je vois que actuellement, en fait, c'est 28% des personnes qui décèdent au Québec qui ont demandé d'être à leur domicile. Donc, il y a vraiment là une demande importante. Il faut respecter ça. Je pense qu'il faut entendre les besoins des personnes. Il faut, par contre, on le sait, les soins de fin de vie, ce sont des soins très souvent qui sont aussi spécialisés, soulagement de la douleur, par exemple, des personnes qui ont des problèmes de santé physique aussi importants. Donc, on voit que ces équipes-là doivent travailler en étroite collaboration avec le réseau de la santé. Ça peut pas être complètement là autonome, oui, à côté, complètement, parce qu'il y a un plan d'intervention pour les personnes. Il y a des médecins qui suivent ces personnes-là. Donc, Nova, ici, on le voit, le travail avec les équipes médicales des trois établissements de Montréal, Centre-Sud, Centre-Ouest et l'Ouest de Montréal. Donc, c'est vraiment complémentaire. Puis ça, c'est extrêmement important parce que les médecins ne sont pas en grand nombre à Nova. Mm-hmm. Souvent, ils sont rattachés à une équipe CLSC. Donc, c'est vraiment tout ce partenariat, ce travail d'équipe qui est extrêmement important. Puis vous le savez, on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre importante. Le soutien à domicile, c'est pour toute population, donc c'est pas seulement pour des personnes qui sont en soins de fin de vie. Donc, on a aussi besoin de nos équipes de soutien à domicile pour le vieillissement de la population, pour des soutiens à domicile de courte durée. Donc, s'il y a des partenaires qui peuvent compléter, accentuer, augmenter l'offre de services en soins palliatifs, mais c'est une aide concrète pour le réseau public.
L'offre, en fait, le soutien du gouvernement pour Nova Soins à domicile, c'est 1,2 million. C'est-tu récurrent ou c'est un one-shot deal, comme on dit?
Ben, pour le moment, c'est une première. On va dire ça comme ça.
Okay.
C'est un financement. C'est la première fois que le gouvernement va financer à cette hauteur Nova. Bon, écoutez, moi, mon travail, c'est d'aller chercher le financement nécessaire pour m'assurer de continuer à développer les soins palliatifs au Québec. Je l'ai fait avec les maisons de soins palliatifs. Je dois le faire aussi au niveau des hôpitaux pour rehausser la formation du personnel. Et puis, mon engagement, c'est de travailler à faire en sorte que nos partenaires soient au rendez-vous et ils aient les ressources nécessaires, mais en même temps, l'agilité. Hein? Alors, parce qu'il faut reconnaître que Nova a développé son programme de façon très agile. Et ça, c'est important de préserver, je dirais, cette certaine agilité, de pas tout mettre dans un programme qui est structuré et qui est extrêmement rigide. Alors, c'est la beauté de Nova, là.
Alors, voilà.
OK. Dernière question pour Anne-Sophie Schlader. C'est pas grand-chose dans le grand ordre des choses, 1.2 pour le mammouth de la santé. Mais chez vous, ça vous permet de pas perdre une expertise aussi puis de continuer à desservir les gens qui en ont besoin.
Exactement. Ce financement-là est majeur, déterminant pour nous. Ça nous a assuré de maintenir nos services carrément cette année. Puis ça nous permet d'entamer la prochaine année avec un petit coussin qui va assurer la poursuite de nos activités. Il serait dommage de devoir couper étant donné que la demande est tellement grande.
Ben, c'est une bonne nouvelle parce que oui, la demande est grande, puis ça contribue à alléger le système de santé. Merci de nous voir en studio, Anne-Sophie.
Merci. Merci, Mme Bélanger aussi.
Permettez-moi de saluer Mme Schlader aussi. J'ai eu l'occasion de rencontrer dernièrement.
Ben, merci de vous être rendu disponible pour nous, Mme la ministre. Je vous souhaite une excellente soirée.
Mais bonne soirée à vous.
Bonne soirée, merci.
Sonia Bélanger, ministre responsable des aînés et aussi de ce virage qu'on veut faire à Québec vers les soins à domicile. Et Anne-Sophie Schlader de Nova Soins à domicile, spécialisée dans le palliatif.
Patrick Lagacé en accéléré.
OK, je vais tomber dans les clichés, mais vous comprenez que j'ai un sourire en coin. Là. Qu'est-ce qui est plus français que le béret? Qu'est-ce qui est plus français que la baguette? Eh oui, les grèves. Et présentement, il y a une grève qui paralyse les visites de la Tour Eiffel, donc le monument emblématique de Paris et de la France est fermé. On va parler de tout ça avec Karima Brick, journaliste québécoise basée à Paris. Salut Karima!
Bonjour. Ben oui, que voulez-vous? Encore une fois, une autre grève. C'est pas un cliché, Patrick. Il a régulièrement, en fait, la France, si on regarde le ratio du nombre de journées de grève là, par habitant par rapport à d'autres pays en Europe, on est quand même pas mal dans les champions, je vous dirais.
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que la Tour Eiffel là, est paralysée par une grève?
Ben en gros là pour je rentrerai pas dans tous les détails techniques mais ce qu'on reproche en fait c'est il y a deux syndicats du personnel du monument qui ont dénoncé la gestion actuelle notamment en fait c'est par la ville de Paris là pour dire que ça les mène tout droit dans des pires difficultés qu'ils n'arrivent pas à entretenir en fait ils en demandent beaucoup à cette société d'exploitation qui gère si vous voulez la Tour Eiffel et donc la ville qui en demande beaucoup. Ils n'arrivent pas. Ils disent, par exemple, la Tour Eiffel devrait être repeinte aux 7 ans. Là, ça fait 14 ans qu'elle n'a pas été repeinte. Il y a vraiment cette pression-là. Donc, la ville qui veut retirer, si vous voulez, des bénéfices d'exploitation, mais qui ne met pas non plus le paquet. Mmh. Alors, ça crée une espèce de pression. On n'est pas capable d'entretenir comme il faut le monument emblématique. Pourtant, il y a des visiteurs. Il y a 7 millions de visiteurs qui viennent à la Tour Eiffel là, comme ça à chaque année. C'est vraiment un des grands monuments de la ville, un des symboles de la ville. Alors oui, il y a des touristes qui sont arrivés et puis qu'est-ce qui s'est passé? Ben tout simplement, ils ont dû rebrousser chemin et pour plusieurs, c'est un drame hein, parce que Paris, il y a des gens qui viennent ici, évidemment, qui économisent, c'est le rêve d'une vie. D'autres veulent faire une demande en mariage ou simplement c'est un voyage de rêve. Alors ça fait quand même un peu étrange. Hein. Paris, ville lumière et la Tour Eiffel qui est fermée. Franchement, ça augure quand même pas super bien en ce moment.
Karima, Paris ville lumière, mais Paris ville paralysée aussi. Je me souviens, là, c'est quoi, il y a un an ou deux, il y avait une grève de la collecte des ordures, puis il y avait des amoncellements de sacs de poubelles. Il paraît que ça sentait vraiment mauvais. Et là, il y a les agriculteurs aussi qui font des pressions de toutes sortes, là.
Oui, puis je ferais quand même la distinction. Là, je vais vous parler des agriculteurs. Pour ce qui est des grèves, ben t'as raison, Patrick. En fait, le week-end dernier, c'était la grève des contrôleurs. Donc, ça a débuté ici. C'est les vacances, un peu l'équivalent de notre semaine de relâche, donc les vacances d'hiver et tout ça. Donc, il y a eu cette grève des contrôleurs. Donc, annulation d'un train sur deux sur les grandes lignes. Vous pouvez imaginer qu'il y a des familles qui veulent aller rejoindre la famille ailleurs. Ou des proches qui partent en vacances. Donc, c'est vraiment le branle-bas de combat. Et maintenant, le week-end prochain, ben, c'est au tour des aiguilleurs qui ont appelé à faire la grève. Donc, comme ça, oui, effectivement. Et aussi, en parallèle, là, comme ça, et ça, c'est un peu l'épée de Damoclès, il y a un syndicat qui a quand même envoyer un préavis de grève qui est possible hein, pour les 7 prochains mois. Pourquoi? Ben, tout ça pour dire qu'il y a une petite menace qui plane. On veut faire peur aussi parce que ce sont les Jeux olympiques qui, évidemment, qui vont être lancés l'été prochain. Alors oui, ça fait partie un peu du quotidien des Français et des Parisiens particulièrement. Puis si on veut revenir pour ce qui est des agriculteurs, c'est qu'en fin de semaine, c'est le Salon de l'agriculture à Paris. C'est un événement habituellement qui est incontournable. Les politiciens viennent faire leur tour, viennent déambuler. Vous voyez un petit peu le symbole. Mais en ce moment, ça va pas bien. Il y a des agriculteurs vraiment en France qui sont littéralement à l'agonie. 1 sur 5 qui vit sous le seuil de la pauvreté. Il y a 1 suicide tous les 2 jours d'agriculteurs. Il y a véritablement une crise. Donc, beaucoup de choses, oui, qui peuvent se faire à l'échelle française, mais il y a beaucoup de choses aussi qui se fait à l'échelle européenne, donc à Bruxelles. Et si vous regardez ce qui se passe en Europe en ce moment, il y a des agriculteurs en Grèce qui ont fait des manifestations en Espagne, on le voit en France. Donc, c'est extrêmement chaud. Puis effectivement, les services de renseignement qui disent, attention, là, ça va être le Salon de l'agriculture. C'est un événement donc sous haute surveillance. Qu'est-ce qu'on va voir manifestations, quoi que ce soit. Donc, ça reste vraiment sous la loupe, tout ça.
Est-ce qu'il y a eu une réponse politique au coup d'éclat des agriculteurs qui ont bloqué des routes, qui ont déversé du fumier, qui ont saccagé aussi des récoltes, là, légumes, fruits, etc.?
En fait, il y a eu une première étape, oui. C'est-à-dire que je pense qu'on craignait un petit peu. Rappelez-vous, quand il y avait eu la période des gilets jaunes, ça avait été extrêmement violent. Donc, le gouvernement a voulu tout de suite, je pense, dire, OK, on est à l'écoute, on va envoyer le signal qu'on entend leur récrimination, qu'on entend leur cri du cœur. Il y a eu une première vague de mesures, notamment bon une augmentation, par exemple, de taxes sur le gazole non routier, la simplification, parce qu'il y a beaucoup de normes de paperasserie. Donc ça, oui, il y a eu des annonces, mais ensuite, il y a des agriculteurs qui disent, écoute, on a des problèmes de trésorerie, on veut pas des subventions, on veut gagner notre vie avec notre travail. Et ça, la pression, elle est encore forte parce que il y a eu des annonces, mais concrètement, il y a des agriculteurs qui disent, écoutez, on voit pas le résultat de ces annonces-là. Et il y a deux, donc, dans le calendrier, il y a 2 choses très importantes. Oui, ce salon de l'agriculture, parce que toutes les caméras, disons, sont rivés sur ce rendez-vous et il y a les élections européennes dans quelques mois où on se dit, bon, ben maintenant, mettez la pression à Bruxelles, faut que ça change, il faut pas qu'il y ait de concurrence déloyale, c'est-à-dire que les agriculteurs français sont soumis à toutes sortes de normes très importantes, que ce soit sur le phytosanitaire, sur ces choses-là. Et ils disent, ben c'est pas juste que, je sais pas moi, il y a des fruits, des légumes qui arrivent du Chili ou ailleurs, ou de d'autres pays, comme on dit, ou même à l'échelle européenne, certaines mesures, des fois, on trouve que on tourne un petit peu les coins ronds, et les agriculteurs français disent, franchement, on est en train de crever. Alors non, c'est pas réglé. Il y avait une petite accalmie, mais barrages routiers, donc les agriculteurs sont remontés dans leurs tracteurs, sont retournés sur leurs terres, mais rien ne dit qu'ils ne vont pas revenir parce qu'ils disent, écoutez, là, si on n'est pas entendu, non, ce ne sera pas terminé, puis oui, on va se remobiliser.
Merci pour ces explications, Karima. Bonne soirée à Paris.
C'est gentil. À bientôt. Au revoir.
À la prochaine. Karima Brick, qui est journaliste à Paris.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé, en accéléré.
Hugo Meunier, journaliste tout-terrain pour Urbania, a eu une très bonne idée. Il est allé poser des questions sur le fait que, bon, on est en plein réchauffement climatique et il y a beaucoup de vedettes qui font la réclame pour des voitures. Il voulait savoir si ces gens-là étaient inconfortables de faire la publicité pour des voitures en ces temps de réchauffement climatique. Avant qu'on aborde ça, Hugo Meunier, bonjour.
Oui, bonjour.
On va parler des chars. Qu'est-ce que tu fais en short?
Ben parce que tu me connais là, je suis tout le temps à l'affût d'une expérience un peu nounoun et là bon ben c'est passé une semaine en short en plein hiver, on m'a lancé le défi
et je suis rendu là.
Je suis même pas capable de voir s'il y a des bienfaits, une vertu. Là. Ben j'ai quand même fait mes devoirs, j'ai appelé des médecins tout ça.
OK, mais attends une minute là.
Ça existe.
Mais c'est venu d'où, pourquoi?
C'est venu d'un article du prestigieux Times Magazine qui récemment faisait état de cette pratique répandue aux États-Unis. Donc, on parle à des gens, les raisons. C'est beaucoup confort, virilité.
Attends, il y a des gens, il y a une tendance de gens qui passent l'hiver en short.
Ben, tu vois, même le mot
pas
tendance...
Pas juste du monde qui s'en vont dans le sud à l'aéroport.
Oui, un classe. Est-ce que tu fais ça?
Non, je trouve ça vraiment... Je m'excuse, non, mais je trouve ça BS.
Ben oui, voilà. Attends, est-ce que t'applaudis un vol réussi à Cancun? Bon, c'est bien. OK, on est fait pour s'entendre, Catherine. Mais oui, il y a des gens. Mais là, le mot tendance est fort. Je pense pas qu'il y a une tendance, mais je pense que ça existe.
Hugo?
Oui?
Je vais te donner un livre. Ça s'appelle « Apprendre à dire non ». Quand ton supérieur te propose des fois des idées, t'as le droit de dire non.
Oui, t'as raison. C'est
OK, mais
non, c'est oui.
Sans vendre les punchs de ton futur reportage à Urbania, c'est comment l'hiver en short?
Ben c'est frette là, ça c'est facile, mais en même temps ça attire. Mon besoin d'attention chronique est comblé et c'est comme quand j'avais une Nissan Micra à l'époque, j'avais jamais vu ça de ma vie, puis quand je me suis mis à conduire ça, j'en voyais partout et là maintenant que je suis nu jambe, ben je vois des gens en short partout et je vais leur parler. Okay. C'est pas inintéressant.
T'as choisi ta semaine en tout cas parce qu'il fait vraiment froid.
Ben voilà, donnez-moi une chance.
C'est très woke parce que tu vis un peu ce que les femmes vivent, sans blague. Ben, les femmes portent souvent des robes et des jupes alors que nous c'est injuste.
Ouais, bon, nous on a des pantalons. Des collants, nous, on se promène pas
nu mollet. Bon. MC, t'es trop woke comme d'habitude. Ben, là, reviens parmi nous.
C'est mon défaut. Passons des shorts au char. T'as dans Urbania là, un reportage, je le disais, où tu te poses la question. Est-ce que les vedettes qui font la réclame de voitures, on peut penser à Martin Petit pour, c'est-tu GM ou Ford, je sais pas. Là.
C'est Jeep.
C'est Jeep, parfait. Karine Vanasse pour Nissan. Marie-Lou, c'est-tu
Chevrolet.
Chevrolet. Mm-hmm.
Dan Bigra.
Est-ce qu'ils sentent...
Plus maintenant, là. Il était à la voix.
Est-ce qu'il et elle se sentent inconfortables de faire ça en ces temps de réchauffement climatique? D'abord, as-tu eu des réponses?
Ben non, oui, j'ai eu des réponses négatives. C'était ça le...
Négatives, genre, je veux pas te parler.
Ils sont tous très occupés, ces gens-là. Ah. Et je n'en doute pas du tout. C'est sûr qu'ils sont tous occupés.
Personne n'a répondu?
Ben, ils m'ont tous répondu par le truchement de leur agent pour me dire qu'ils ne sont pas disponibles, sont tous très occupés. Et là, je plaidais que je vais faire quand même mon article et malgré tout. Ils étaient tous supposés de me parler la semaine d'après. Et quand je leur ai dit d'abord, je vais vous donner un délai, ben, ils étaient quand même très occupés. Donc, je veux pas présumer de la mauvaise foi de ces gens-là, même si, bon, mon petit doigt me dit que c'est plus facile de les faire parler de leur dernier film que de ce partenariat lucratif. Mais en même temps, moi, c'est pas d'hier, ça. Rappelez-vous, André-Philippe Gagnon, l'humoriste, allez hop, cascade dans les années 90. Ça existe depuis longtemps, mais je trouvais que là, il y avait une espèce de constellation de jeunes vedettes très à la mode auprès des jeunes. Donc, Marie-Lou, tu sais, trois fois par jour, Marie-Lou Wolf, Pierre-Luc Funk, qui est l'idole de ma fille de 11 ans avec Vox. Donc, je me disais, bon, là, on prend quand même plus. Tu sais, avant, tu prends Dan Bigra, tu lui fais vendre des camions, tu dis oui.
C'était la voix de Dan. Hein?
C'était la voix de Dan, puis on dirait que ça marche. T'sais, même Martin Petit avec Jeep, tu l'imagines avec sa chemise de chasse. Oui, il était.
Il avait été avec une Smart.
Avec Smart, donc on n'est pas à une ironie près. Mais on dirait que Marc Dupré avec les gros trucks GMC, tu dis oui, je tombe pas en bas de ma chaise. Mais là, Pierre-Luc Funk, l'idole des jeunes, vend des automobiles, puis ils ont beau se draper dans l'électrique. Là, on me l'a dit, j'ai parlé avec des intervenants intéressants, ces gens-là ont beau se draper dans la vertu, tu représentes pas le modèle électrique, tu représentes une marque de char.
OK, puis c'est quoi le problème avec représenter une marque de char?
Ben, moi, j'ai aucun problème avec ça, mais je suis un journaliste qui pose des questions et je pense...
Attends une seconde.
Ben, je comprends là,
Je comprends que t'es un journaliste objectif pis tout.
Voilà.
Mais il y a quand même une subjectivité dans le choix de poser cette question-là. Qu'est-ce qui t'a poussé à la poser?
Il y a une subjectivité dans le journalisme en général. Bon. Moi, je trouvais que là, il y avait cette tendance-là de prendre des jeunes et je me demandais si eux autres avaient un malaise. Puis je les condamnais pas. Je pense que
ben
c'est
moi,
très
payant.
Moi, je
pense que le fait que tu n'aies pas rappelé, c'est qu'il y a un malaise. Ben, sinon, il t'aurait rappelé.
J'étais quasiment content qu'il ne rappelle pas. À un moment donné, ils ne rappelaient tous pas. Je me disais, ben, j'ai un sujet. Et là, à voir les réactions aujourd'hui, je me dis, ben, coudonc, j'ai crevé un abcès.
Je pense qu'ils
ne
t'ont pas rappelé pour une raison assez simple. Je pense que dans le contrat, pas sûr que t'es supposé de parler de la marque si t'es pas invité, si t'as pas l'autorisation de parler de la marque.
J'ai quand même envoyé une demande aussi au constructeur, à Nissan, à Vogue. J'ai fait ça comme un pro.
OK, penses-tu qu'un jour, on va regarder les gens qui font la pub des voitures, comme on regarde aujourd'hui dans le rétroviseur, avec, les médecins qui faisaient la réclame de cigarettes dans le temps du noir et blanc?
Excellente question, j'en suis convaincu.
Tu penses?
Je pense que, v'là pas si longtemps que ça, pensez à ça aujourd'hui, Jacques Villeneuve compétitionnait en F1 avec Players. Ça, c'est hier, ouais, là, c'est en 97.
C'est le commanditaire, là.
Oui, mais quand même, tu sais, puis il y avait même les Flintstones ont fait une pub de cigarettes, les pierres à feu.
Okay.
J'ai retrouvé ça, mais je pense que ça va avoir l'air bizarre à un moment donné parce que force est d'admettre que côté environnemental, ça va pas très bien et que ces gens-là, bon, ben, je veux dire, oui, l'automobile existe encore. Vos éditeurs sont probablement en auto présentement et tout le monde conduit, mais le choix d'être le porte-parole de marque de char, c'est quelque chose.
Il y a, tu vois, t'es pas un journaliste objectif.
Ben, je suis comme ça.
T'étais un peu chroniqueur. Non, mais Hugo, la cigarette, il n'y a rien de bon là-dedans.
Ouais.
Le char, je comprends qu'il y a des effets négatifs de toutes sortes, mais c'est pas que négatif, ce produit-là.
Non, on a besoin de l'automobile, tout est beau.
Toi-même, t'as une auto.
Moi, j'ai une auto, je suis venu avec mon Kia Rondo 2011. D'ailleurs, j'ai peut-être une contravention présentement pour le droit du public à l'information. Mais je veux dire,
fait,
oui.
Fait qu'un jour, tu vas regarder dans le rétroviseur et tu vas dire, mon Dieu, tu vas t'arracher le peu de cheveux qui te reste. Tu vas dire, j'avais un char.
Hey, laisse mes cheveux tranquilles. Non, mais c'est
moi,
pas...
Moi, j'ai une question
Je condamne
toi.
Zéro les gens qui conduisent des voitures, là. Comprenez-moi
mais
bien.
Mais tu veux les shamer.
Pas du tout. Pas les gens, pas les conducteurs de voitures. Je conduis une voiture. Je pose la question des vedettes qui sont déjà très nantis et très riches. On parle pas de vedettes qui ont besoin de payer leur fin de mois, je pense. C'est des vedettes qui vont très, très bien, qui font le choix de devenir le porte-parole, le visage d'une marque de voiture. Je pose la question si en 2024, t'as un petit problème de conscience le soir en te couchant. C'est tout.
C'est sûr que poser de même, ils ont peut-être pas envie de répondre.
Ben, j'ai fignolé ça comme un pro rapidement.
Moi, j'ai une question. Tu sais, t'as pas nécessairement la notoriété pour vendre une marque de voiture.
Non, c'est mon bien chier.
Mais non, mais tu sais, honnêtement, ces noms-là, c'est des noms...
Ma mère serait pas d'accord avec toi.
Je l'ai pas non plus. Peut-être pas pour avoir la notoriété pour vendre des voitures, mais ça,
oui,
dit,
même pas.
On te met un chèque de 350 000 $ devant toi, puis on dit, ça te tente-tu d'annoncer telle marque de char? Oui. Tu réponds quoi?
C'est mal me connaître parce que je dirais non. Pour
je
de
te
vrai.
Crois je tellement suis, moi, pas.
Je vous le jure. Les gens qui me connaissent bien diraient, c'est vrai, je suis pas à l'argent, sinon je serais très riche aujourd'hui, je serais encore chez Québécois.
À la défense d'Hugo, s'il a accepté le contrat Urbania, c'est sûrement pas pour le chef.
Non, je comprends,
non, pour vrai, moi, je suis incorruptible côté argent, sans farce.
Parce que, Hugo, tu l'abordes dans ton papier, ce sont des contrats payants pour les personnalités qui deviennent le visage d'une marque d'auto.
Oui.
Est-ce qu'on sait combien?
Ben,
c'est d'un
6 chiffres, mais 6 chiffres plus en haut qu'en bas.
Ah oui?
C'est des salaires.
Près du million?
Près du million.
Donc, ça dépend pour qui. Là.
Entre 300, j'ai entendu 500 000. Il y a des gens qui m'ont écrit depuis la publication de ce reportage choc. Et on parle d'un salaire de PDG pour 4 pubs puis une petite présence au salon de l'auto.
Oui.
Donc, c'est quand même intéressant.
C'est quoi un salaire de PDG?
Ben, ça dépend. Mettons, à peu près le salaire d'animateur au 98.5.
C'est quoi le salaire d'un animateur au 98.5?
Mettons, je sais pas, moi, 400-500 000. Là. D'après moi, ils font à peu près ça, ces gens-là.
C'est ça, toi?
Ben, moi, je sais tout.
OK.
Oui, je suis un journaliste terrain.
Mais j'aime non, ça, le hot-site arrête de virer de bord.
Juste une chose, c'est qu'à 400-500 000, le salaire...
Oui.
Parce que moi, j'ai travaillé en pub, j'ai ça à peu près, les salaires de porte-parole, là. Faut que tu vendes des chars.
Mais
j'espère juste que le résultat est là.
Je suis sûr qu'il est là. Catherine, moi, de toute façon, là, je suis assez pauvre pour accepter ce contrat-là, mais on parle aussi de visages de gens qui font énormément de sous présentement dans leur job de jour, là, de comédien, de femme d'affaires, d'artiste. Les porte-paroles actuelles,
c'est pour ça qu'on les a
choisis. Très, très riches. Oui, mais c'est différent si tu prends moi, qui n'a pas une scène, tu me dis, je te donne 300 000 par année, ben, ça se peut que je dise oui pour écrire, être un écrivain à temps plein après.
Okay. T'es achetable, toi aussi.
Ben, tout le monde est achetable.
Okay. Merci, Hugo. Hugo Meunier de Urbania.
Je me sens mal d'avoir un char.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.